France Inter, le 18-20.
Le 18-20 sur le bruit auquel nos fragiles oreilles sont confrontées en ville, à la maison, dans la rue, dans certains magasins. Pour décrire le bruit de fond permanent de nos vies, le bruit parfois assourdissant, s'impose aujourd'hui le concept de pollution sonore. C'est un continent que l'écologie, les villes et tous les acteurs du bruit doivent désormais prendre en charge. Alors comment lutter contre le bruit? Comment faire baisser le son? Comment éviter que le silence ne devienne un luxe que seuls les plus fortunés pourront s'offrir? Quelles initiatives sont envisageables dans des villes qui existent et qui ne sont donc pas créées ex nihilo? Trois spécialistes répondent ce soir à vos questions, à vos témoignages également. Intervenez jusqu'à 20h dans Ce téléphone sonne.
Nicolas Demorand, Le téléphone sonne.
Et pour nous joindre, Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, 01 45 24 7000 pour le standard. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par une question qui nous vient par courrier électronique. Hélène de Grenoble nous dit la chose suivante. Est-ce nécessaire que les sirènes de police s'entendent des kilomètres à la ronde la nuit? Que le camion qui livre la farine à 4h du matin à la boulangerie en dessous de chez moi émette un son strident quand il recule alors qu'il n'y a personne dans la rue? Que les communes utilisent des engins incroyablement bruyants pour balayer les feuilles mortes, de préférence tôt le matin, et que surtout les gens parlent très bruyamment sur leur téléphone portable la nuit. La liste est longue, nous dit Hélène. Cependant, je ne vois personne réagir devant ces situations comme si c'était une fatalité produite par notre monde à laquelle nous devons nous habituer. J'ai quand même deux questions en particulier pour ceux qui habitent, mais pas seulement en ville. Dormez-vous bien et avec ou sans boule-quies? Merci Hélène pour cette question d'introduction. Pour vous répondre ici au téléphone sonne et amorcer le dialogue, Christian Hugonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur et président fondateur de la Semaine du son. Laurent Drouin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du Centre d'information sur le bruit. Et Didier Gonzalez, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le président de Bruit Parif, dont j'ignorais l'existence, fondé j'imagine sur le modèle de Air Parif.
Oui, c'est pas très loin. Ça, en tous les cas, ça a vocation à appréhender la problématique du bruit telle qu'elle vient d'être décrite, d'ailleurs.
Parfaitement bien par Hélène. Vous êtes par ailleurs maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi. Alors, qui peut répondre à Hélène sur la stridence des sirènes en pleine nuit, le camion qui, au petit matin, fait du bruit pour ramasser cet archétype du silence qu'est la feuille morte? Qui veut dire un mot, Christian Hugonnet, pour commencer?
Oui. Oui, je crois qu'il faut parler d'abord d'une méconnaissance. J'aime bien dire tout simplement que l'oreille n'est pas de paupière, on n'arrête pas d'écouter le monde, et on n'a pas la capacité de s'arrêter d'écouter. Donc du coup, en fait, on est dans un monde permanent de bruit, et que peut-être effectivement, comme nous sommes dans un monde parallèlement très rétinien, ne faisons que regarder. Et nous ne pensons pas précisément à cet événement extraordinairement important qu'est le sonore qui modifie nos comportements. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut voir les choses et qu'il faudrait se dire aujourd'hui à quel point le sonore peut conditionner notre comportement. Alors, je crois qu'on imagine aujourd'hui des éléments extrêmement bruyants qui sont très efficaces, j'imagine évidemment, forcément, mais on se pose pas forcément la question de la nuisance sonore que cela implique et des conséquences que cela peut avoir.
Je vous retourne là. La question d'Hélène, dormez-vous bien et avec ou sans boule-quies?
Moi, j'aime beaucoup. Je dors très bien, avec un peu de bruit. J'ai besoin d'un peu de bruit pour pouvoir dormir. Le silence me fait très peur et j'alerte tout un chacun à ces doublages ou ces triple vitrage qu'on installe quelquefois pour s'isoler totalement du bruit extérieur et qui fait qu'on va découvrir son voisin d'à côté. Celui qui reste, lui, par contre. Les voitures passent, mais le voisin, lui, reste.
Alors, attention. Oui, parce que le silence fait naître d'autres bruits. C'est ça, enfin, disons, les rend perceptibles, en tout cas.
C'est-à-dire que le niveau de bruit descendant, effectivement, on entend des micro-bruits, finalement, qui sont des émergences.
Un mot, Laurent Drouin, puis Didier Gonzalez.
Vous avez dit que le bruit est vécu comme une fatalité. C'est vrai que c'est souvent vécu comme ça, mais ça n'en est pas une. Il y a quatre leviers, en fait, pour répondre à la question de l'interlocuteur. Le premier levier, c'est sur le matériel, notamment vous avez évoqué le ramassage de collecte des ordures. Il y a des matériels qui sont moins brillants que d'autres. Le deuxième levier, c'est sur la sensibilisation des opérateurs. C'est un problème comportemental, donc on peut leur expliquer comment se comporter de manière moins bruyante. Le troisième levier, encore plus efficace, c'est en termes d'organisation des transports, et notamment du circuit de collecte. Et puis le quatrième levier qui est le plus pertinent, c'est au niveau de la planification urbaine et de la planification des services publics. Il y a un cadre réglementaire pour les grandes villes qui existe, qui est le plan de prévention du bruit, qui est issu d'une directive européenne dont on pourra reparler après si vous voulez, qui demande aux collectivités de plus de 100 000 habitants de mettre en place des plans de prévention sur le bruit, comme ça existe pour les inondations ou les risques technologiques. Et dans ces plans de prévention du bruit, on peut très bien travailler avec les divers opérateurs pour améliorer la situation.
Et est-ce que, monsieur le directeur du Centre d'information sur le bruit dort bien et avec ou sans boules quies ?
Je dors bien et je ne dors pas avec des boules quies.
Moi, je dors mal et avec des boules quies. Didier Gonzalez, comment répondre à Hélène ?
Eh bien, moi, je pense qu'Hélène a raison. On n'a pas suffisamment pris en compte la problématique du bruit, ce bruit multiple, ce bruit insidieux, ce bruit qui est multidirectionnel et développé par beaucoup des activités humaines qui nous entourent. Rien que sur l'Île-de-France, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont en souffrance du bruit, puisque au-dessus des seuils réglementaires. Donc on voit bien que c'est insidieux et que quelque part le bruit n'a pas forcément le statut de l'air en termes de pollution. Et il y a une sorte de banalisation. On dit oui, bon, ça fait du bruit, ça va passer. Bon, ça fait du bruit, ça passe un peu. On ferme la fenêtre, etc. Non, non. Le bruit, c'est quelque chose à prendre beaucoup plus au sérieux et dans tous les compartiments du jeu, de l'activité, de l'usage, de la performance. Le bruit doit rentrer comme une ligne de conduite et c'est l'un des enjeux justement de Bruit Paris qui vise à appréhender et quantifier le bruit, l'établir sous forme de carte de bruit, de façon à ce qu'on se rende compte de la réalité où est le bruit, et essayer de diagnostiquer ensuite pour apporter des réponses et accompagner les grands opérateurs qui sont globalement ceux qui génèrent des moyens de transport.
Bon sommeil, boule caisse ou pas ?
Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un bon sommeil et étant riverain de l'aéroport d'Orly, de bénéficier encore d'un couvre-feu. Donc, couvre-feu la nuit, ce qui fait que mes oreilles sont encore épargnées, mais je ne suis pas sûr que certains n'aient pas d'autres projets.
Énormément de questions au Standard d'Inter. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Havre, soyez le bienvenu.
Je vous appelle du Havre. Alors, vous avez commencé votre émission en parlant des gens qui font du bruit en travaillant, mais moi, je voudrais vous parler du bruit de ceux qui ne travaillent pas, qui se promènent en moto. Je pourrais citer les Harley-Davidson, il n'y a pas que les Harley-Davidson. Les quads également, qui font du bruit pour le plaisir ou qui font du bruit au feu rouge pour manifester leur impatience derrière les voitures et leur demander de s'en aller plus rapidement. C'est des bruits qui sont vraiment au maximum sonore, au maximum de décibels possible.
Merci Daniel pour cette question. Alors sur les motos, nous avons Hervé qui nous dit que les Harley-Davidson sont belles mais qu'elles font beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a une réglementation ? Jean également par courrier électronique. Voici ma question, j'aime beaucoup la parenthèse qui vient, je ne peux pas la poser en direct car je suis au travail, j'écoute l'émission avec un casque. Fermez la parenthèse. Comment obliger le législateur à faire adopter des lois pour forcer les constructeurs automobiles à faire baisser les décibels de leurs appareils polluants à tout point de vue ? Personnellement, nous dit Jean, j'ai des envies de meurtre quand j'entends les camions poubelles sous mes fenêtres ou des Harley, donc des motos qui pétaradent dans les rues. Pourquoi n'est-ce pas simplement interdit en ville ? Qui veut répondre à cet ensemble de questions, Laurent Drouin ?
Oui, il y a une réglementation qui existe. C'est interdit d'avoir des véhicules bruyants au-delà de certains seuils. C'est dans le code de la route. Là, on est sur des problèmes de comportement. Ça peut être verbalisé, bien sûr. Mais c'est un problème compliqué à gérer puisque ça relève du comportement individuel des personnes qui utilisent des motos au-delà de leur capacité technique, probablement.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de verbalisation de PV pour ce genre de choses ou pas, d'après vous, messieurs ? Didier Gonzalez, non ?
C'est, Mais vous avez raison, c'est essentiellement comportemental, donc c'est un peu compliqué. Pour autant, on n'est pas dépourvu. On n'est pas dépourvu parce qu'il y a une réglementation préfectorale sur ces lieux qui sont générateurs de bruit. Les salles des fêtes, ceux qui organisent des manifestations, etc. Les bars. Donc on a des heures de fermeture, on a des outils néanmoins qui permettent de globalement limiter le bruit, en tous les cas le bruit nocturne et le bruit à des moments où il ne devrait pas intervenir. Mais c'est vrai que l'individu qui va circuler avec une motocross sans plaque d'immatriculation parce que la législation lui permet de ne pas afficher de plaque d'immatriculation et que par ailleurs les forces de l'ordre ont justement pour consigne de ne pas intercepter ces véhicules parce que ils mettent et leur vie en danger et celle d'autrui. Vous voyez toutes les limites qu'il y a après quant à l'exercice de ces...
Christian Hugonnet, sur les véhicules très bruyants et les motos, en particulier les Harley Davidson.
Oui, les Harley. En plus, elles ont un son qui est plutôt agréable. Je l'ai dit, c'est dommage parce que elles sont souvent citées avec leur un son extrêmement grave, qui est d'ailleurs une signature de la moto. Bon, mais cela dit, c'est vrai qu'une mobylette d'ailleurs fait plus de bruit qu'une Harley Davidson et va réveiller en une nuit, par exemple, plusieurs centaines de milliers de personnes en une demi-heure, s'il le veut.
Donc le passage à travers la ville, dans les grands boulevards, moi qui habite
sur les grands boulevards, je vous assure, tous les soirs, j'ai une moto comme ça, ou une mobylette qui pétarade. Moi, j'ai envie de revenir sur des notions de base. Je veux dire, pourquoi en est-on là aujourd'hui et pourquoi n'avons-nous pas pris conscience de cette importance du sonore? C'est un problème important. Je crois que nos élus doivent être aussi conscients que le sonore est un élément fondamental de notre équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et bien évident, bien évidemment, un comportement de ce type-là sur une mobylette ou une moto ne ressemble pas à un comportement très, je dirais, très, très citoyen. Mmh. Voilà ce qu'il faut se dire. Mais peut-être aussi qu'à l'école, on devrait aussi amener aussi cette prise de conscience, beaucoup plus tôt, si je puis dire.
C'est un lieu bruyant, l'école.
Eh oui, on commence à une cantine. La cantine, écoutez, vos cantines, regardez vos cantines, écoutez-les, quoi, je veux dire. Écoutez également les préaux, les salles de récréation, je veux dire, ce sont toujours des éléments bruyants. Regardez également les gares, également, qui sont souvent également des lieux parfaitement bruyant. Et tout cela, effectivement, passe à l'as. On en parle, mais ça n'émeut pas grand monde, si je puis dire. Donc, attention à l'exemple que l'on donne aussi dans notre pays.
Didier Gonzalez, sur les écoles, cantines et autres.
Ça, c'est une réalité, une prise de conscience assez récente de la part des élus. Si vous voulez, il existe des revêtements. Et j'en sais quelque chose puisque je viens de terminer un self-service pour les enfants et donc il existe des revêtements. C'est assez nouveau, à la fois la prise de conscience et le fait que les constructeurs offrent plus spontanément ce type de matériaux sur ce type d'équipement. Donc voilà, moi je pense réellement que c'est une attention de tous les jours, une éducation au bruit. On reconnaît bien des pics de pollution aujourd'hui, de pollution atmosphérique. Pourquoi ne reconnaîtrons pas demain des pics de pollution bruyants? Quand un train passe dans un bruit assourdissant sur un quai, alors que vous avez des gens, des voyageurs qui attendent sur le quai et qu'ils sont captifs, il faut s'interroger sur ces engins qui font énormément de bruit et sur ces pics de dangerosité, puisqu'il faut parler de pics de dangerosité. Le bruit, c'est 7 mois de vie en moins en région parisienne.
Le bruit.
Le bruit, bien sûr. La morbidité du bruit est avérée maintenant, que ce soit au niveau de vos conduits acoustiques, mais aussi de tout votre environnement. Ça a été évoqué en début, en termes de stress, en termes de sommeil, en termes de malapprentissage. Tout ceci est quantifié maintenant aux abords des aéroports. On sait quantifier cela. Donc oui à cette prise de conscience complète.
Je donne la parole à Pierre qui nous attend au standard depuis une petite vingtaine de minutes. Avec mes excuses, Pierre, je vous salue chaleureusement. Bienvenue sur France Inter.
Eh bien, écoutez, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis très heureux, comme d'habitude, d'entendre vos intervenants parce qu'ils sont toujours, ils ont toujours des choses à dire intéressantes. Voilà, il se trouve que vous m'avez permis de témoigner lors de votre émission en avril, je crois, ou en mars, sur les problèmes auditifs. Et je voulais aller dans le sens de tout ce que les gens ont dit, c'est-à-dire que le bruit rend fou, les nuisances sonores rendent folles. Moi, je suis hyper acousique et acouphénique sévère. Ça rend fou, ça peut non seulement détruire la personne qui subit le bruit, mais ça peut amener cette personne à détruire la vie des autres. Il y a des tas de bruits qui sont inutiles. Par exemple, quand on regarde des films en noir et blanc avec les dialogues de Michel Audiard, il y a les dialogues et pas de musique. Les dialogues étaient intéressants. Maintenant, il y a toujours de la musique. On est obligé de mettre les sous-titres. C'est énervant. Les jingles qui vous disent « Hey, t'es là ?» à la télé, à la radio. Mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Les scooters qui passent, c'est terrifiant. Moi, c'est les aigus qui me gênent. Les graves, ça va à peu près. Mais les aigus me terrifient. Je suis terrifié par les écoles dont parlait un de vos intervenants. Moi, j'étais instituteur. Il y a des écoles qui subissent des bruits routiers de 80 décibels alors que les enfants sont calmes et sages. Vous voyez ce que je veux dire? Et les conditions de malapprentissage, mais comment ça a été bien dit par votre intervenant, c'est extraordinaire. Je voulais surtout insister sur moi, le fait, je rappelle, ça s'est passé quand j'avais 20 ans, donc il y a 37 ans, incident de tir à l'armée, et depuis, eh ben, plus ça va, plus je deviens fou et inapte à la vie sociale. Je vous remercie de votre émission et j'aimerais que le bruit ne fasse pas partie de la culture et que le silence fasse partie de la culture. Voilà.
Merci Pierre, vous avez une très belle voix de radio, j'en profite pour vous le dire. Christian Hugonnet vous répond.
Oui, c'est un point essentiel que de dire que les gens considèrent que perdre l'oreille, ce n'est pas aussi grave que perdre la vue. C'est intéressant de le dire sous cette forme-là. Hein, vous avez interviewé 10 personnes, sur les 10 personnes, tout le monde veut garder les yeux sur le monde. On oublie tout simplement que l'oreille, c'est notre rapprochement à l'autre, c'est notre relation à l'autre et au monde. Et celui qui perd l'oreille, perdre quasiment tout. Aucune, la sécurité sociale vous le dira, aucun problème, gros problème de réinsertion sur le plan sociétal, mais aussi dans son travail, etc. On perd tout. Donc on n'a plus que ses yeux pour pleurer, si je puis dire. Et cette prise de conscience, on ne l'a pas chez nous. Autrement dit, il y a des pays anglo-saxons, on est dans la musique, par exemple. C'est intéressant de parler de musique aussi quand on parle du bruit. Vous voyez, aujourd'hui, 2%, 2 à 3% de gens en France jouent d'un instrument de musique. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Oui. Jamais, effectivement, l'instrument de musique pénètre effectivement les salles de classe, l'éducation nationale. Pour quelle raison? Pour quelle raison aujourd'hui est-ce si compliqué de jouer d'un instrument de musique? Alors que les pays du Nord, je pense en Angleterre, je pense aux États-Unis, on est à 30 à 40% de gens qui jouent d'un instrument de musique. Ça aide à comprendre ce que c'est qu'un son. Donc ça permet d'être soi-même acteur sonore, permet aussi de savoir ce que c'est qu'un son.
Laurent Drouin.
Oui, le témoignage de ce monsieur est très fort. Il est atteint d'hyperacousie et d'acouphène. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'hyperacousie, donc c'est effectivement un problème assez rare mais très grave. Donc, c'est une hypersensibilité au bruit qui provient probablement de son accident de tir dont il a parlé. C'est une situation catastrophique et ça renvoie effectivement sur le fait que le bruit rend fou. Le bruit peut tuer. Monsieur Gonzalez l'a dit. Et je voudrais rebondir sur le coût social du bruit, qu'il y a une étude très intéressante qui est sortie il y a tout juste un an, qui a été commandée par le Conseil national du bruit, et qui fait état d'un coût social global du bruit d'à 57 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez, le chiffre est tellement important qu'on a du mal à le mesurer. C'est à peine moins que le coût social de la pollution de l'air. Vous avez eu une émission il n'y a pas longtemps sur ce sujet. C'est un peu moins que le budget de l'éducation nationale, par exemple. C'est un coût énorme qui prend en compte tous les coûts indirects du bruit, et notamment, vous parliez tout à l'heure des écoles. Dans une école qui est exposée à des bruits ou qui est mal traitée au niveau acoustique en termes de confort intérieur, les enfants ont des difficultés d'apprentissage, les enseignants ont un stress. Et le résultat global de ça, c'est qu'à la sortie, on peut avoir de l'échec scolaire. Et donc, ça entraîne un coût social. Voilà, ce coût social a été estimé, si on englobe le coût à l'école, au travail, dans la vie quotidienne, transport, etc., 57 milliards d'euros. C'est un chiffre frappant.
Avant de passer la parole à Jean-Charles qui nous attend au standard, cette question d'Anthony. Je suis professeur des écoles, la classe est très mal insonorisée, c'est très difficile pour les élèves et moi-même. Y a-t-il des textes à opposer à un employeur, Didier Gonzalez?
Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'équipements municipaux dont les municipalités ont la charge, l'équipement des écoles. Et donc,
De textes, je n'en connais pas directement, mais il convient d'avoir une préoccupation quant aux conditions d'études.
Il n'y a pas quelque chose d'opposable à son employeur, en l'occurrence la ville, là. Enfin, l'éducation nationale et la ville.
Sur la ville, après, on doit avoir des contraintes de construction sur un certain nombre de matériaux, mais je ne suis pas suffisamment pointu pour répondre à cet élément.
Christian Hugonnet, Laurent Drouin.
Oui, on va répondre la même chose, je crois. En termes de construction, justement, aujourd'hui, bien évidemment, toute nouvelle construction dédiée à l'éducation passe effectivement par des contraintes liées à la réverbération, à l'isolement, à des notions qui nous sont propres en tant qu'acousticien. Oui, bien sûr. Donc, il y a une prise de conscience quand même qui arrive aujourd'hui dans les nouvelles constructions seulement.
Oui.
Laurent Drouin.
Il y a deux textes de loi qui interviennent dans ce cas-là. C'est effectivement le texte sur les constructions. Les établissements scolaires doivent répondre à des performances acoustiques. Et il y a le texte sur le code du travail, la réglementation sur le bruit au travail. Donc, ce monsieur doit pouvoir agir auprès de son employeur. Concernant, juste une petite parenthèse concernant les écoles, il faut savoir qu'il y a des réglementations concernant le confort acoustique dans toutes les écoles, les lycées, les collèges, les maternelles, etc. Il y a juste une catégorie qui n'est pas concernée, ce sont les crèches, la petite enfance. Et j'en profite pour faire une information. Il y a une opération qui est lancée actuellement par la ministre de l'Environnement et qui consiste à réhabiliter l'acoustique interne, des crèches et des établissements de petite enfance. Vous avez tous les renseignements sur le site du CIDB bruit.fr.
Il est 19h44, merci d'écouter France Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et désolé pour le jingle, bonsoir Jean-Charles.
Oui, bonsoir à tous. Merci Monsieur Demorand de prendre ma question et merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Alors, ma question, le cas spécifique de la ville de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, qui est traversée par 14 voies d'autoroute A6 B6. Nous sommes classés point noir par le plan projet de plan de bruit dans l'environnement depuis 4 ans. Nous sommes classés 6e au niveau de la restriction des points noirs, et cela fait 20 ans que nous, avec l'association des castors du jardin parisien, que nous essayons par tous les moyens, courrier au préfet, au ministre, etc., à faire avancer le sujet, et jusqu'à maintenant nous n'avons aucune avancée. Donc je voulais savoir quels étaient les moyens possibles pour faire avancer le projet,
merci,
le sujet.
Merci beaucoup Jean-Charles. La parole à Didier Gonzalez.
Oui, alors justement sur ce sujet très précis, votre maire a saisi Bruit Paris pour des études complémentaires justement sur ce lieu. Et nous avons budgété une campagne de bruit qui est en cours en ce moment, de façon à ce que nous puissions au moins quantifier très précisément. Alors, on disposait déjà des cartes de bruit, mais on sait que le bruit aussi évolue en fonction du trafic, et de la nature des véhicules, etc. Et donc, il est déjà intéressant, me semble-t-il, que cette prise de conscience soit développée.
Christian Hugonnet.
Oui, la semaine du son organisait à l'UNESCO une journée sur le thème justement du sonore dans l'urbanisme. C'est important de parler de cela et voir avec des architectes, avec des urbanistes, en quoi le sonore doit être pris en considération au début. Il faut arrêter ces murs anti-bruit, qui arrivent toujours après. Essayons d'imaginer demain des villes qui seraient pensées par des urbanistes, des architectes, mais normalement, en sachant effectivement que le sonore est un point d'équilibre, tout simplement, et pas forcé, pas quelque chose qui passe par la législation, mais qu'on puisse tout simplement se dire qu'une ville qui pense par le sonore, c'est le cas par exemple de
Tokyo. Tokyo est une ville extrêmement calme. Je ne sais pas si vous êtes allé à Tokyo.
J'y ai vécu, effectivement.
C'est fabuleux. Oui, oui. Les voitures roulent tranquillement.
On dirait des petits villages absolument. Dans certaines
et,
rues.
Et savez-vous qu'on a pensé d'emblée de mettre effectivement une asphalte qui absorbe les roulements de voitures, tout simplement. Et pourquoi ? Pourquoi chez nous, on ne pense pas à cela ? Mmh. Autrement dit, pensons le sonore, effectivement, en amont, et pour voir, pour imaginer, en tout cas, un urbanisme plus intelligent. Pour quelle raison le Grand Paris n'a pas encore franchi cette étape.
Laurent Drouin, puis un mot Didier Gonzalez encore.
Voilà, il y a des vraies solutions de prévention en termes d'urbanisme. On peut traiter le bruit en amont en termes de planification, de plan de déplacement urbain, de plan locaux d'urbanisme. Il y a des documents qui permettent de faire ça. Par contre, la question de ce monsieur sur les points noirs de bruit, donc les points noirs de bruit, c'est des bâtiments qui sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 70 décibels, pour être précis, donc qui sont insalubres acoustiquement parlant, et qui sont des dossiers extrêmement difficiles à résoudre, parce qu'il y en a beaucoup en France, il y en a plus de 3000, ça fait 20 ans que ça dure, effectivement. L'État prend en charge un certain nombre de points noirs de bruit, mais ça prend du temps, de l'argent, et tout le monde n'est pas servi au moment où il le voudrait.
70 décibels, pour avoir une comparaison, c'est quoi comme volume sonore ? Christian Hugonnet.
Alors, une voix parlée normale, 60, là, je vous parle à 65 décibels, à peu près 65. 70, ce serait un peu ça, un peu plus fort, vous voyez, une voix un peu chargée.
Un bruit qui est au bord d'un grand boulevard, boulevard Saint-Germain, à Paris, par exemple.
Didier Gonzalez voulait dire un mot et puis on retourne au standard.
Oui, juste un mot pour dire que oui aux réponses, et on voit bien, elles se dessinent techniquement. Oui aux réponses en matière d'urbanisme pour intégrer tous ces éléments, mais oui aussi, et ça nous fait revenir au propos du début, oui aussi au comportement, parce que on parlait de la classe d'école, mais la classe d'école c'est aussi comportemental, parce que quid du comportement des enfants, n'a-t-il pas évolué ces dernières années avec un moindre respect du silence qui doit être fait et propice à l'étude. Alors donc, tout doit être intégré.
La parole à Georges. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Georges.
Alors, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, moi, je vous écoute très attentivement. Et en fait, on parle du bruit. Alors, je voudrais aussi vous parler un peu du silence. Alors, du bruit, moi, j'en souffre beaucoup. Et en fait, j'en veux que des bruits se rajoutent, en fait, un peu plus à chaque fois. J'en veux, comme ça a été cité en début d'émission, les souffleuses de feuilles, c'est une hérésie. Depuis 2 ans, les souffleuses de feuilles, non seulement font un bruit énorme, dégagent de la poussière, enfin bon, voilà. Mais en fait, quand tout s'apaise, quand la nuit arrive, il est 1h, 2h du matin, et enfin, on pense retrouver le silence. Mais non, parce que à ce moment-là, apparaissent d'autres bruits, évidemment, qui sont masqués. Alors j'en veux, ce sont des bruits de fond, qui sont constants, donc peut-être moins, on a peut-être moins conscience, comme les VMC, comme les souffleries, des climatiseurs, des climatiseurs, comme... Alors moi, je prends pour l'exemple, souvent, quand vous avez un ordinateur chez vous qui ronfle, vous vous en rendez pas compte. Mmh. Et quand vous l'arrêtez, d'un coup, vous sentez comme si on vous enlevait des poids sur les épaules. D'un coup, il y a un soulagement. Et ces bruits de fond, c'est pas pris en considération parce qu'ils sont, en fait, ils sont constants et linéaires. Donc, je reprends l'exemple des VMC, des souffleries, etc. Donc voilà, je voulais simplement mettre ce petit point.
Merci beaucoup, Georges. Merci de l'avoir fait sur le bruit de fond, effectivement, qui est parfois très haut. Qui veut dire un mot, Laurent Drouin ?
Oui, en matière de bruit, sur les autres pollutions, la pollution de l'air, pollution de l'eau, on recherche toujours à ce qu'il y en ait le moins possible. Dans la pollution sonore, c'est le titre de votre émission, l'objectif c'est pas qu'il y en ait le moins possible, il faut qu'il y ait le bon bruit au bon endroit, au bon moment. Et donc c'est vrai que quand on enlève un bruit, souvent on en fait apparaître un autre. Donc c'est une difficulté qu'il faut bien mesurer, on est dans le dosage en fait. Donc c'est vrai qu'il faut être très prudent lorsqu'on supprime un bruit, de vérifier qu'on va pas faire apparaître d'autres problèmes ailleurs.
Christian Hugonnet.
Oui, ce monsieur a parfaitement raison.
pour dire qu'il y a un continuum sonore aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a peut-être encore 10, 20 ans. Hein. Autrement dit, les climatiseurs sont la circulation. Tout cela, effectivement, crée un continuum. Une personne qui vient à Paris, de banlieue, elle va rentrer dans un RER, un niveau qu'il va situer autour de 70, 75 décibels. Elle va passer au métro, ensuite elle ira dans la rue, toujours au même niveau. Un open space est quelquefois assez bruyant aussi. Vous voyez, et inversement, dans l'autre sens, elle ira peut-être dans un supermarché, effectivement, à un niveau constant. Et on va rester comme ça sur un continuum sonore qui est extrêmement fatigant. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc? On va écouter des musiques qui sont, elles aussi, d'ailleurs, relativement compressées, pour être entendues au-dessus du bruit de fond, c'est l'escalade. Mmh. C'est un problème essentiel. Donc, il va falloir prendre conscience de tout cela, quand même. Et tout cela vient, précisément, de cette fameuse rumeur de la ville qui ne désemplit jamais. Mmh.
Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Lot-et-Garonne, je vous en prie.
Je voulais revenir sur un phénomène, parce que j'habite au cœur du Lot-et-Garonne, et donc le bruit n'est pas l'exclusivité des villes, mm-hmm. mais c'est un type de bruit que nous avons à la campagne différent. C'est-à-dire qu'ils sont en général beaucoup plus ponctuels, mais beaucoup plus violents. Je prendrai trois exemples rapides. Donc toutes les personnes qui habitent autour de moi dans le hameau dans lequel j'habite sont venues pour chercher le calme et la tranquillité du lieu. Par contre, l'année dernière, nous avons eu l'installation d'une base ULM à 500 mètres du hameau, la randonnée quad, sans laquelle aucune fête de village dans le secteur ne peut se dérouler, et une rave party qui s'est déroulée à 500 mètres des maisons. Dans un champ, toutes ces pollutions sonores étant liées à des activités dites de loisirs, entre guillemets, modernes, et qui génèrent donc des pollutions sonores souvent très violentes et très perturbantes pour les gens qui sont venus chercher le silence, le calme et la vie tranquille à la campagne.
Merci beaucoup Patrick de nous avoir téléphoné. Qui veut dire un mot sur le bruit, le silence de la campagne et le bruit notamment celui lié aux loisirs modernes. Laurent Drouin.
Oui, là, il s'agit de problèmes d'émergence sonore par rapport à un bruit de fond qui est calme. Là, ce monsieur doit, j'imagine qu'il l'a fait, mais il doit se référer au maire qui a le pouvoir de police et qui est le garant de la tranquillité publique. Après, si le problème devient plus aigu, à trouver un médiateur, un conciliateur, voire aller au tribunal. Mais on ne peut pas accepter, évidemment, que des activités de ce type-là ne répondent pas à la réglementation qui existe sur ce genre d'activité.
Christian Hugonnet.
Oui, c'est le décret de 2006 qui s'applique alors totalement à ce qui est un type de figure. Donc, on ne doit pas avoir une émergence de plus de 3 décibels par rapport à l'existant, sauf le bruit du coq, évidemment. On a le droit d'entendre
alors,
le coq chanter.
On a des questions sur le coq et attention, les vaches à la campagne. Je subis la pollution sonore des coqs de mon voisin et des chiens dans la rue qui aboient, nous dit Martine.
Alors, il y a une jurisprudence là-dessus, intéressante, sur le chant du coq, évidemment, sur un balcon parisien, et qui était considéré comme
une nuisance.
Une nuisance tout à fait alléguée. Alors, maintenant, un coq à la campagne, ça se conçoit parfaitement. Et là, du coup, moi, je n'irai pas plaider, en tout cas, contre le chant du coq à la campagne.
Vous trouverez une jurisprudence intéressante sur le sujet sur notre site.
D'accord, c'est le site du Centre d'information sur le bruit. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
En ce qui me concerne, très heureux d'échanger avec vous. En ce qui me concerne, je vais aller à l'encontre un petit peu de tous. Le bruit ne crée-t-il pas un lien social? J'ai envie de dire, vos invités ont tous eu 15 ans, 18 ans, on est gamins, on fait du bruit, tout le monde fait du bruit. Le silence, un petit peu, c'est comme un mur, c'est comme c'est un peu le mur de Berlin. Ça crée un lien social, c'est un signe de vie, je veux dire. Une anecdote, vous venez de parler du coq, là, c'est fabuleux. Ça me rappelle quand j'avais 18-20 ans, moi, mes parents étaient à la campagne. Le coq, il chantait au moment où je rentrais du bal, à 5h du matin. Et voilà, quoi, c'était... Donc, c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est
marrant. Non, mais vous avez tout à fait raison, le bruit... Oui, c'est la vie, les cimetières sont très calmes, hein, Alain.
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, vous avez lu mon papier.
Non, j'ai pas lu.
Je plaisante, évidemment, mais bien sûr, mais les cimetières sont calmes, mais c'est bien, moi je vois un exemple très concret, j'ai habité pendant 6 ans à Oyonnax, dans le département de l'Ain, où il y a un grand club de rugby, j'habitais dans la sub d'Oyonnax, donc un quartier soi-disant difficile, j'avais les jeunes, j'habitais au premier étage, les jeunes, sous mes fenêtres, ils discutaient, ça me berçait, et je m'endormais, et les soirs où la pluie venait vers 11h du soir, minuit, c'est la pluie qui me réveillait. Il y a bruit et bruit, je crois qu'il faut... Il ne faut pas qu'on soit sectaire et tout, là, on est, par rapport au bruit, tout ce que j'ai entendu entendu depuis le début de l'émission, on est un peu sectaire, on est un petit peu comme les écolos, comme les verts. Non, c'est la vraie vie, il faut du bruit, c'est la vie, quoi.
Merci Alain, merci beaucoup d'être intervenu sur Inter. Christian Hugonnet.
Alors j'irai dans votre sens, là, cette fois-ci, pour dire tout simplement qu'une personne qui rentre très tard le soir, une jeune femme que je connais bien, qui porte des talons aiguilles, elle est heureuse d'avoir ce bruit permanent qui lui cache justement le masque et qui lui permet de rentrer en toute sécurité chez elle. Donc on peut voir aussi les choses de cette manière-là. Mais par contre, c'est vrai que cette absence de micro-silence, il ne s'agit pas d'un silence éternel qui est demandé, mais cette absence de silence est aussi une absence de possibilité donnée à l'homme de pouvoir réfléchir, de pouvoir se poser. Et c'est en cela, c'est de cela dont on parle depuis le début de l'émission, je crois.
Didier Gonzalez, puis Laurent Drouin.
Oui, juste d'un mot pour dire qu'en fin de compte, ce qui est pénible, c'est de subir le bruit. Parce que bien évidemment, le bruit est un lien. On connaît tous des personnes isolées qui mettent la télé parce que c'est une présence, parce que voilà. Mais quand le bruit, quand en fait ce volume sonore est contrôlé et choisi, c'est une chose. Quand il est subi, il est absolument insupportable. Et c'est peut-être un petit élément d'information qui peut être fait, et puis peut-être répondre à Alain avec un sourire pour lui dire que faire du bruit ne fait pas de bien, mais faire le bien ne fait pas de bruit.
Laurent Drouin.
Oui, c'est un beau témoignage. Monsieur a raison. Le bruit, c'est la vie. Le problème, c'est pas le bruit, hein, c'est la pollution sonore, c'est l'excès de bruit. Comme on disait tout à l'heure, c'est une question de dosage. On n'est pas là dans l'idée de réduire systématiquement tous les bruits. Hein.
Alors, on a beaucoup de questions pour finir sur la musique abrutissante des chaînes de grande surface reprenant, je cite, des radios débiles, les pianos en libre accès des gares SNCF tapotés par des ignares musicaux. Bref, le bruit de son dans les lieux de passage, on a parlé des gares tout à l'heure, mais beaucoup de questions donc sur les magasins. Une auditrice qui nous dit qu'elle demande dans les magasins, est-ce qu'on éteigne la musique et on la regarde avec des yeux absolument effarés. Christian Hugonnet.
Oui, j'avais l'autre jour en face de moi un vendeur d'une grande surface qui avait arraché le haut-parleur qui se trouvait au-dessus de sa tête et il n'en pouvait plus. Hein. Donc, et c'est vrai que ces annonces qui sont, encore une fois, extrêmement mauvaises en termes de qualité, hein, très compressées, encore une fois, il n'y a pas de dynamique sonore, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Hein, tout est continuum. Effectivement, fait que quelque part, vous allez rentrer dans le magasin, vous voulez acheter une savonnette et vous ressortez avec une brosse à dents.
Hein. Oui, et une mauvaise mélodie en tête. Laurent Drouin.
Oui. Ce phénomène devient préoccupant en fait, parce qu'il y a réellement une forme d'addiction sonore qui apparaît, notamment chez les jeunes, qui ne peuvent plus se passer d'endroits où il n'y a pas une musique à assez fort niveau. On voit ça dans les magasins de vêtements en particulier. C'est préoccupant parce que c'est un phénomène d'addiction, vraiment.
Vraiment, enfin, on a besoin d'entendre des sons forts.
Qui dit addiction dit drogue, etc. Donc vous voyez, ça peut aller assez loin.
Drogué au son. Merci à tous les trois, Christian Hugonnet, Laurent Drouin, Didier Gonzalez. Merci aux très très nombreux auditeurs de France Inter qui nous ont téléphoné ce soir pour vous poser des questions, messieurs, et partager leurs expériences. Le journal est à suivre.